Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Ce qui s'est passé en 1995 au Rwanda appartient à la mémoire sombre de l'humanité. En l'espace de 100 jours, au moins 800 000 Rwandais ont été tués, majoritairement Tutsis. Un génocide, puisqu'exercé pour des raisons ethniques, mais un génocide dont on n'a pas mis à jour toutes les responsabilités, ni tiré toutes les leçons. Des zones d'ombre demeurent que certains tentent d'éclairer. C'est le cas de Patrick de Saint-Exupéry, qui, au nom de la vérité, n'a pas hésité à se mettre en danger en allant sur un terrain que l'on peut dire miné, dans tous les sens du terme. Véritable aventure, véritable enquête, mais aussi une plongée dans la même des hommes, une recherche au plus près de ce qui a été vécu et ressenti, un travail de grand journaliste et d'un réel écrivain. Ce roman s'intitule La Traversée. Il est édité par la maison d'édition Les Arènes dans la collection Reporter. Patrick de Saint-Exupéry, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous allons tout de suite éliminer une question qui certainement pointe chez nos auditeurs. Vous appartenez à la famille d'Antoine de Saint-Exupéry, très probablement.
Oui, Antoine était mon grand-oncle, un cousin de mon grand-père.
Tout simplement, donc il y a une lignée d'écrivains, voilà, tout naturellement. Alors, avant de parler de votre ouvrage, il est nécessaire, si vous le permettez, de rappeler les faits. Printemps 94, un Falcon qui transportait le président Hutu, alors Juvénal Habyarimana, est abattu par deux missiles sol-air. Il me semble qu'il est abattu d'ailleurs au-dessus de l'aéroport.
Il est abattu au-dessus de l'aéroport et même au-dessus de sa résidence.
Sa résidence.
Son corps va tomber sur sa résidence.
Oui,
c'est incroyable.
Assez incroyable.
Oui.
Alors, immédiatement, évidemment, les Tutsis du Fonds patriotique rwandais, le FPR, qui contestent le pouvoir du défunt président, ils contestaient, sont accusés d'avoir fomenté l'attentat. Et le 6 avril débutent de terrifiants massacres perpétrés par les Hutus qui vont faire plus de 800 000 morts Tutsis. Ultérieurement, circulera une théorie non vérifiée d'un deuxième génocide contre les Hutus au Congo, perpétré par les Tutsis du FPR, donc toujours le Front patriotique rwandais. Bref résumé, aucune erreur ?
Non, il n'y a rien à redire.
Bon, alors je continue. Après déclassification de plusieurs dossiers concernant le Rwanda, un rapport d'une commission d'historiens présidée alors par Vincent Duclerc, je suis allée voir exactement ce que c'est Vincent Duclerc, historien et inspecteur général de l'éducation nationale, a été remis très récemment, le 26 mars de cette année, à Emmanuel Macron. Ce rapport concerne quoi ?
Ce rapport a été formulé d'abord sur la base de tout un travail de recherche d'archives. Le premier propos était de rassembler les archives de l'État français cette période de 1994 au Rwanda. Et sur la base de ce traitement des archives, d'arriver un petit peu à analyser la politique menée par Paris durant cette période. Et le constat est très dur, puisque le rapport Duclerc parle des responsabilités lourdes et accablantes de Paris dans ce dossier et d'une faillite politique, morale aussi très importante.
Oui, voilà. Et aucune complicité au sens juridique du terme.
Au sens historien du terme, puisque Vincent Duclerc définit la complicité comme une complicité active, autrement dit, je caricature un petit peu le propos, mais pour être clair, des soldats français en train de participer directement au génocide, ce qui n'a jamais été dit, ce qui n'a jamais été envisagé, ce qui n'a jamais été le cas dans le thème de la discussion. Mais en tout cas, Vincent Duclerc définit la complicité de cette manière-là. D'un point de vue juridique, c'est un petit peu plus compliqué, parce que la complicité passive existe d'un point de vue juridique.
Le laisser-faire.
Et le laisser-faire, et même l'agrément donné au laisser-faire. Oui. Voilà.
Oui. Alors, à la suite de la parution de votre livre intitulé « Complices de l'inavouable, la France au Rwanda », vous avez eu droit à 31 procédures judiciaires en 12 ans.
Oui, parce que c'est un dossier extrêmement controversé, qui a été extrêmement rude dans l'affrontement, parce que, si vous voulez, le propre de tout génocide, c'est d'entraîner du négationnisme. Le négationnisme est la marque du génocide. Le négationnisme, c'est quelque chose...
Mais ce négationnisme, on le comprend de la part des génocidaires, je dirais.
Oui, alors il y a de la part des génocidaires, mais il y a aussi de la part d'un certain nombre de gens qui se sont retrouvés dans le dossier à différents titres et qui vont essayer de contester au fur et à mesure des révélations. Et c'est ce qui s'est produit avec l'inavouable La France au Rwanda, où j'avais mis, et mon éditeur, nous avions mis
oui,
un certain nombre de noms.
Aussi a été impliqué, hein.
Un certain nombre de noms de gens qui avaient mené la politique de Paris au Rwanda, qui étaient les décideurs, et sept officiers français ont attaqué en diffamation et ont multiplié les procédures, pas parce que nous avons très régulièrement gagné, sauf dans deux cas.
Ouais. Voilà. Oui, parce qu'il y a des généraux, il y en a un qui avait démissionné, et il y en a un autre qui soutient ce que vous dites.
Alors, au sein de l'armée, les premiers qui ont pris la parole étaient les plus agressifs, d'une certaine manière. Ceux qui défendaient à tout prix ce qu'ils avançaient être l'honneur de la France. Les officiers, les généraux, plusieurs officiers, qui eux avaient émis pendant toutes ces années de fortes critiques sur le rôle de l'état-major de Paris, eux sont restés plus discrets parce qu'ils n'avaient pas envie de rentrer dans ce débat. Et ils ont fini par dire un certain nombre de choses qui accréditaient complètement les responsabilités qu'a Paris dans les événements du Rwanda.
Oui, parce que, alors, je me suis posé la question, la responsabilité, normalement, des décisions militaires revient au pouvoir civil.
Bien sûr, bien sûr. À aucun moment donné, dans toute cette histoire, il a été question de porter le soupçon sur les soldats, sur les officiers, capitaines, lieutenants, colonels. Non, ça, il n'en a jamais été question, parce que les soldats ont accompli ce qu'on leur a demandé de faire. C'est leur travail et c'est très bien comme ça. En revanche, il y a un niveau qu'on peut appeler politico-militaire, où des généraux, le chef d'état-major particulier à l'Élysée, le chef d'état-major de toutes les armées, leur rôle est aussi bien politique que militaire. Ils sont vraiment
à
cette jonction. Oui. Et donc, c'est eux qui sont en cause par un certain nombre de décisions qu'ils ont prises et une politique qu'ils ont initiée et menée. Donc, c'est vraiment eux qui sont en cause.
J'ai lu que le général Varé, commandant de la mission militaire de coopération, a bien dit que quand on lui dit les forces françaises de 90 à 93 se sont-elles contentées d'assister les forces armées rwandaises, il dit que ce n'était pas le cas et c'est pour cela qu'il a démissionné et quitté l'armée.
Oui, oui, c'est toute la polémique qui a eu lieu pendant plus de 20 ans, à savoir jusqu'où avaient été les ordres, quels avaient été les ordres précis donnés et jusqu'où ceci avait été. Et le général Varet, lui, était responsable de la coopération militaire au ministère de la coopération à l'époque, qui n'existe plus maintenant. Et donc il était le grand responsable de toutes les actions de coopération et il a fait le choix de démissionner parce qu'il estimait que la coopération militaire engagée avec les autorités rwandaises de l'époque, celles qui vont mener le génocide, allait beaucoup trop loin et qu'elle n'était pas maîtrisée.
Oui.
Et donc, il décide de démissionner parce qu'elle va trop loin, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est parce qu'un jour, il rencontre un officier rwandais qui lui dit « Les Tutsis sont très peu nombreux, nous allons tous les éliminer ». Et lui n'est pas d'accord.
Oui,
et donc, il répercute tous ses avertissements à l'état-major, à ses autorités, à l'Élysée, qui systématiquement ignore tout cela, le place sur le côté, et lui, il ne lui reste plus qu'une solution pour avertir du danger, c'est de démissionner. Mais lorsqu'il démissionne, ça sera avalisé tout de suite, c'est un proche de Mitterrand, ils se connaissent bien, et on le remplacera par quelqu'un qui est extrêmement fidèle à la ligne mise en place par François Mitterrand, qui est à l'époque le chef de l'État.
Oui, d'accord. Le chef de l'État, et en même temps, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est international.
Oui, alors oui, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le domaine réservé de l'Élysée, mais le domaine réservé, c'est pas un fait constitutionnel, c'est une tradition.
Une tradition,
parce qu'on pourrait opposer un autre fait constitutionnel, à savoir que l'Assemblée nationale peut intervenir aussi dans des débats de politique étrangère. C'est un droit dont elle se prive volontairement jusqu'ici au nom de la tradition, mais l'Assemblée nationale est tout aussi représentative de la population, de la légitimité française que le chef de l'État. Mais en l'occurrence, donc, François Mitterrand va avoir une fascination pour ce dossier rwandais. Il va le traiter presque à titre personnel. Lorsqu'on discute avec tous les acteurs de l'époque, il reste encore fasciné par le nombre d'interventions de François Mitterrand sur ce sujet.
Mais il avait lié des liens quasiment d'amitié, non, avec le président mort dans cet accident d'avion, enfin cet attentat.
Je ne dirais pas forcément des liens d'amitié. Ce sont deux hommes qui s'entendaient bien, mais c'est difficile de définir des liens d'amitié entre des chefs d'État. Moi je ne sais pas très bien quels peuvent être des liens d'amitié d'État.
Je vais vous poser la question autrement. Quel était l'intérêt, là, de l'État français? Est-ce qu'il y a des mines, des choses qui nous intéressaient particulièrement?
Non, le Rwanda est un tout petit pays qui est grand, mettons à peu près comme la Belgique.
Par rapport à au Congo, c'est un confetti.
C'est un confetti au cœur de l'Afrique, qui n'a pas de ressources particulières, qui est un pays plutôt assez pauvre. Donc il n'y a pas d'intérêt particulier. Les seuls intérêts qui sont mis en avant par les gens qui vont mener la politique de Paris-Rwanda sont la francophonie, la défense de la francophonie et les engagements pris par Paris envers un certain nombre de pays africains, les engagements de défense, à savoir Paris, la France, un certain nombre d'engagements avec des pays africains, ce qu'on appelle des accords de défense. Si ces autorités sont menacées, alors Paris intervient pour les aider, il n'est pas question de les laisser tomber.
Ces engagements, que soit la politique, c'est étonnant.
C'est la politique française en Afrique. La seule difficulté, c'est que il n'y a pas d'accord de défense signé avec le Rwanda. Et néanmoins, Paris va intervenir d'une manière politique, militaire et diplomatique extrêmement forte. Il n'y a aucun accord de défense. En fait, les premières relations que la France noue avec le Rwanda remontent à 1975, avec le président Valéry Giscard d'Estaing, qui signe un tout petit accord de coopération avec la gendarmerie. Et ça s'arrête à ça.
Mais est-ce qu'il ne marche pas sur les brisés des Belges?
Alors oui, Paris essaye de prendre en fait la suite, vous avez parfaitement raison, Paris essaye de prendre la suite de la présence belge, de contrer les Belges, les Français ne connaissent pas la région des Grands Lacs. Nous avons très peu d'expérience sur les Grands Lacs, et donc nous allons raisonner sur cette région comme nous raisonnons en Afrique de l'Ouest, avec ses points de repère. Sauf que c'est un monde très différent, une culture extrêmement différente, et un monde très différent. Ça va être aussi une des raisons de la faillite de Paris au Rwanda.
Alors, comment s'est manifestée la mansuétude de l'État français à l'égard des Hutus pendant et après ce génocide?
Oui. Si on essaye de résumer un peu cette faillite morale et politique qui est constatée au plus haut niveau de l'État, maintenant, même par le président Macron qui l'a admise lors d'un voyage officiel à Kigali, si on veut résumer cela, on peut dire de manière justifiée que nous avons, Paris a soutenu en tout cas politiquement, militairement et diplomatiquement ceux qui ont mené le génocide, avant le génocide, pendant le génocide, et après le génocide. Ça paraît extrêmement fort comme accusation, mais la difficulté, c'est que tout cela est établi sur de nombreux faits. Il y a eu toute une politique de soutien militaire avant le génocide, où on a livré des armes en quantité, où on a eu une présence militaire extrêmement forte, 600 soldats présents en permanence pendant 3 ans au Rwanda, un pays, je le disais, qui est grand comme la Belgique, ce qui est une présence énorme, et c'était des troupes excellentes en plus. Ces troupes-là ont parfois été très loin dans leur soutien au régime rwandais, qui tournait de plus en plus à un régime raciste, corrompu, et qui était lancé dans la préparation du génocide. Ce soutien s'est fait malgré un certain nombre d'avertissements, nous en parlions il y a quelques minutes, qui étaient donnés par des responsables militaires, des diplomates, des journalistes, des experts de la région, qui disaient attention, 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 et Paris poursuivait, ne voulant rien voir, ne voulant rien entendre. Et en fait, tous ceux qui s'opposaient, ou qui en tout cas émettaient des avertissements sur cette politique, étaient écartés. Pendant le génocide, nous avons continué à livrer des armes à ceux qui commettaient le génocide. Et là aussi, c'est des faits établis. Après le génocide, nous avons continué à soutenir ceux qui ont commis le génocide.
Est-ce que l'armée n'est quand même pas intervenue pour stopper, sinon ralentir ce génocide, mais 3 jours trop tard ?
Alors là, là, vous faites allusion à l'opération Turquoise. L'opération Turquoise est déclenchée vers la fin juillet, c'est-à-dire à la fin du génocide. Le génocide démarre le 7 avril 1994, au lendemain de l'assassinat du président Habyarimana. Et fin juillet, nous sommes à la fin du génocide. Et c'est le moment où l'opération Turquoise est lancée. Mais cette opération, qui est lancée de manière un peu abracadabrantesque, va poser énormément de problèmes, parce qu'on n'arrive toujours pas très bien à définir au jour d'aujourd'hui si cette opération était visée à soutenir ceux qui avaient commis le génocide, ou à s'interposer de manière humanitaire. D'un point de vue pratique, les soldats qui participent à Turquoise vont intervenir du côté de ceux qui ont commis le génocide.
Facilitant leur départ.
Non, d'un point de vue pratique, c'est-à-dire que physiquement, ils vont être présents aux côtés de ceux qui ont commis le génocide. Et c'est un des éléments qui est quand même les plus accablants. L'armée va permettre, sur ordre des autorités politiques, l'exfiltration des principaux responsables du génocide, où les soldats français vont évacuer sur le Zaïre, le Congo aujourd'hui, les principaux responsables du génocide.
Oui, parce qu'ils ont aidé les Hutus à fuir, mais ils n'ont pas tiré eux-mêmes.
Ah non. Il a jamais été question de dire que des soldats français avaient participé au génocide. Jamais. Ce genre d'argument que j'ai entendu assez régulièrement, en fait, c'est les responsables. C'est pour ça que je le mentionne. C'est les responsables politiques qui me le rétorquaient. C'est-à-dire que moi, je leur posais la question à des ministres ou à vraiment à des gens de responsabilité. Et je leur disais, mais voilà, tel jour, à telle heure, tel avion immatriculé X a atterri à tel endroit avec X tonnes d'armement, etc. Donc, vous voyez, des questions très précises. Et à chaque fois que je posais ces questions très précises, ces responsables politiques me répliquaient, mais comment vous imaginez la France coopérer avec les gens qui ont fait le génocide? Et lorsque j'ai insisté un petit peu pour avoir la réponse à ma question, expliquez-moi ce vol, ils allaient en cran plus loin, ils me disaient, mais comment vous imaginez des soldats français ayant participé au génocide? Mais je leur disais, ça n'a jamais été la question. Mais pour ne pas répondre à la question factuelle, il la grossissait, il l'exagérait. Mais ça n'a jamais été la question du débat. En fait, c'est vraiment une question d'attitude politique et du rôle qu'on a fait jouer à nos soldats.
Oui. Donc, en fait, en permettant de la fuite au Congo des organisateurs du génocide, et encore, les caciques étaient tous partis, je pense, ailleurs, y compris la veuve de l'ancien président, en France en particulier.
Alors, dans les premières heures du génocide des Tutsis au Rwanda, l'armée française va évacuer la veuve du président Habyarimana et un certain nombre de hauts responsables de ce qu'on appelle la casou, la petite maison, qui est en fait le noyau qui a conçu le génocide et qui l'a préparé. Et nous allons évacuer, enfin l'armée française va les évacuer à l'étranger. À la fin du génocide, il s'est mis en place, après un coup d'État, un gouvernement intérimaire qui a réalisé le génocide. Et à nouveau, les soldats français vont les évacuer vers le Congo. Mais cette évacuation des responsables du génocide va entraîner un mouvement de population absolument incroyable. Ils vont partir avec leur pays sur le dos presque. Ils vont dire à leur population, à ceux qu'ils ont entraînés dans cette folie, parce qu'on parle vraiment d'extrémistes. Il y a quelque chose que je trouve fascinant.
Chez les Hutus, tous n'étaient pas...
Voilà. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'on a tendance à opposer les Hutus aux Tutsis. Or, c'est pas comme ça. Ça n'est pas la bonne lecture. Il y a, parmi la population Hutu, un noyau d'extrémistes qui va véritablement emporter son peuple, sa population, pour le pousser à commettre le génocide.
Via la fameuse radio aussi qui est incitée.
Via la radio Mille Collines, qu'on appellera Radio La Mort, et qui va donner en direct des instructions à la population pour tuer les Tutsis, qu'on appelle alors les cafards, et qu'il faut éliminer, parce qu'on parle d'un génocide, c'est-à-dire de l'élimination de toute une population, hommes, femmes, enfants, vieillards, qu'importe, il faut qu'ils disparaissent tous et jusqu'à leur mémoire. Et là, nous sommes véritablement dans le génocide. Et donc, lorsque les responsables du génocide vont être évacués vers le Congo, ils vont emporter avec eux, mais volontairement, leur population, pour s'en faire un bouclier, pour rester protégé. Et on va avoir une foule de populations de 1 million, 1,5 million de personnes qui brutalement vont débouler du Rwanda vers le Congo et s'installer sur la frontière au Congo, former des camps de réfugiés d'importance considérable.
Mais est-ce qu'ils n'avaient pas peur aussi, ne craignaient pas les représailles des Tutsis ? Ils avaient peur, puisqu'ils savaient très bien, ils ont bien vu tous les morts, toute cette hécatombe. Est-ce qu'ils n'ont pas fui parce qu'ils avaient peur ?
Je crois que quelqu'un qui a commis un meurtre, un assassinat, un crime, a forcément peur un jour d'être attrapé par son crime.
Mais même à la limite, ceux qui n'avaient pas commis de crime savaient qu'ils appartenaient aux Hutus et que donc ils risquaient leur peau.
Mais non, c'est...
Ils croyaient.
Ah, alors, on leur a fait croire,
oui, on leur a fait croire.
Si on le formule comme ça, on leur a fait croire. Oui, bah, parce qu'il faut bien comprendre qu'un génocide, c'est une construction politique qui se fait dans le temps, sur de très longues années, mais c'est un fait politique.
Oui.
Et moi, ce qui m'a beaucoup fasciné dans cette histoire, c'est que pendant des années et des années, en France, en Europe et dans le monde occidental, on a un petit peu dénié le fait politique à propos du Rwanda et dénié aussi le fait d'humanité à propos du Rwanda, au profit de visions ethniques, raciales, assez simplificatrices, je trouve, et ça nous permettait, me semble-t-il, en tout cas, ça a permis en tout cas à des responsables politiques de glisser sur ce génocide, de faire comme s'il n'avait pas vraiment d'importance, où on les entendait dire « oui, tout est compliqué, donc il ne faut pas trop s'y attarder, quoi, c'est compliqué, puis c'est des affaires tribales d'Africains. »
Et puis on va arriver à cet argument faux. Vous allez vous en parler justement dans votre livre dont nous allons parler. Si vous voulez bien, Patrick de Saint-Exupéry, on va faire une pause musicale. Et en discutant tout à l'heure, mais oui, on a dit, mais évidemment, c'est Daniel Faye qu'il faut entendre, puisqu'il a écrit ce livre, lui-même était rwandais.
Oui, hein, oui, oui.
Et il a écrit Petit Pays, qui était un livre formidable. On l'écoute.
Toyi gahugu kaniniya warapfunywe ni wapfuye waragowe ni wagoka gahugu gatoyi.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début. Mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guisséni. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Petit bout d'Afrique perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays, pendant 3 mois tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de vous haïr quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption, je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil d'un résidu d'étoiles filantes.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapfunywe ni wapfuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets, quand on s'en canaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale, à force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. quand l'Afrique se transforme en cadavre. Les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope. Citez-moi un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre.
Kaoku katoyi, kaoku kaniniya. Warapunweni wapuye, warako weni wakoka.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures.
Petit pays,
je t'aime, ça j'en suis sûr.
Warapunweni wapuye, warako weni wakoka. Kaoku katoyi.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Voilà, nous reprenons notre entretien avec Patrick de Saint-Exupéry qui a écrit un ouvrage passionnant, La Traversée, paru aux éditions Les Arènes. Il s'agit du génocide rwandais, des causes, de ce qui s'est passé exactement, puisque bon, il y a eu des procès, il y a eu... Et récemment, il y a eu un rapport qui a été effectué par une commission et qui indique que finalement il y a eu des responsabilités accablantes de la part de la France, pas de complicité au sens juridique du terme, mais des responsabilités accablantes. Et c'est ce dont nous parle Patrick de Saint-Exupéry. Il en avait déjà parlé et ça lui avait valu pas mal de procès, n'est-ce pas ? De rudes procès, j'imagine. Et là, dans La Traversée, on revient sur autre chose, c'est-à-dire que pour justifier l'aide aux Hutus, on a prétendu qu'en fait, il y avait un second génocide.
Oui, c'est ça, pour ne pas regarder ce qui avait été commis, pour un peu noyer le poisson quoi, de ce crime de génocide contre les Tutsis qui venait d'être commis, on a inventé une théorie, on a inventé un deuxième génocide. Et on l'a littéralement inventé de toutes pièces. Et celui qui l'a inventé, c'est François Mitterrand, qui l'invente en personne en novembre 1994, pendant un sommet franco-africain à Biarritz. Nous sommes quelques mois à peine après la fin du génocide des Tutsis. Le Rwanda est un pays dévasté, hein. Les collines sont tapissées de morts, on voit des fantômes, des morts vivants, sur les maisons il n'y a plus de toit, tout a été pillé, enfin il ne reste plus rien vraiment, c'est un pays... terrible, très difficile en tout cas. Et il y a tous ces survivants, ces rescapés qui n'arrivent pas à trouver les mots pour raconter aussi ce qui s'est passé, parce que c'est très dur de trouver les mots. Et donc à ce sommet franco-africain, François Mitterrand va véritablement poser de manière officielle la théorie du double génocide, où il va dire mais que s'est-il passé pendant ce génocide ? Est-ce que ce sont les Hutus qui ont tué les Tutsis ou les Tutsis qui ont tué les Hutus ? Donc il amène cette possibilité et il poursuit est-ce que vous croyez que le génocide s'est terminé ? Autrement dit, il y en a un deuxième en cours. Et le deuxième, d'après lui, serait commis contre les Hutus. Et cette théorie. Au début, prospère pas vraiment, pas parce qu'elle ne repose sur rien, elle ne repose, il n'y a pas de fait, il n'y a que des rumeurs.
Voilà, il n'y a rien, il n'y a aucune preuve.
Non, il n'y a aucune preuve. Et donc, moi dans le premier livre que je ferai sur ces événements du Rwanda, l'inavouable, la France au Rwanda, je parle de cette théorie, mais en quelques lignes. Parce qu'il suffit de quelques lignes pour dire qu'elle n'a pas de valeur. Et simplement, ce qui est très compliqué, c'est qu'au fil des années, cette théorie va prendre une ampleur de plus plus en plus forte, va être peu à peu...
Tous les milieux politiques, universitaires, etc., ont marché là-dedans.
Oui, oui, voilà, les intellectuels, presse, les politiques, oui. La presse, va un petit peu se délecter de cette théorie, va l'entretenir et va, d'une certaine manière, la crédibiliser. Et à un moment donné, c'est comme pour tout, moi je ne suis pas omniscient et je commence à m'interroger, à me dire, mais est-ce que je me serais trompé ? Est-ce que je me suis trompé ? Et donc, je décide de partir sur le chemin de ce deuxième génocide hypothétique qui se serait déroulé au Congo et qui aurait visé la masse de la population Hutu qui s'est réfugiée au Congo ou qui a fui le Rwanda à la fin du génocide.
Soit disant poursuivi par les Tutsis, donc.
Alors, ce qui se passe... c'est que dans ces camps de réfugiés, qui sont d'immenses camps de réfugiés, hein, la population Hutu est littéralement sous le contrôle des extrémistes qui imposent une loi de fer.
Compris du côté Congo, non ?
Oui, dans ces camps au Congo, hein, qui regroupent un million et demi de personnes, 2 millions, les chiffres sont assez imprécis, mais en tout cas, on est dans cet ordre de grandeur-là. Le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies constate que jamais dans l'histoire du monde il n'y a eu un tel rassemblement de criminels, pas parce que beaucoup de ces gens ont participé au génocide, et là encore je ne les juge pas, un certain nombre ont été poussés à participer au crime. D'autres ont vraiment œuvré comme responsables, mais un certain nombre ont été poussés. Donc moi je ne juge pas, mais je constate quand même que voilà, il y avait beaucoup de petites mains du génocide dans ces camps. Et ces camps vont devenir, au fur et à mesure du temps qui passe, un laboratoire de la haine, mais absolue. C'est-à-dire que les ordonnateurs du génocide, les grands maîtres du génocide, disent qu'ils veulent finir le travail. C'est-à-dire que le génocide n'est pas terminé, nous allons prendre notre revanche, nous allons finir le génocide. D'accord, nous avons subi une défaite, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Et notre guerre, c'est de mener le génocide jusqu'à son terme. Et donc, peu à peu, ces camps vont se réarmer, on va voir la reconstitution de milices, il va y avoir des entraînements militaires de plus en plus importants, des armes vont être livrées, et les nouvelles autorités rwandaises, qui sont à la tête d'un pays qui est dévasté, vont d'abord s'adresser à la communauté internationale en disant, mais c'est pas possible, ces camps sont sur la frontières, ils nous menacent, ils sont dangereux, on ne peut pas laisser faire, personne ne va les écouter, puis il va y avoir un deuxième avertissement, personne ne va les écouter, et puis tout le monde va se dire, de toute manière, ces nouvelles autorités rwandaises sont tellement faibles, on n'a même pas besoin de les écouter, passons notre chemin. Sauf qu'ils finissent par attaquer les nouvelles autorités rwandaises finissent par attaquer les camps. Pour les démanteler, parce que c'est une menace contre le pays, c'est une menace existentielle contre le devenir du pays. Et donc ces camps vont être démantelés. Beaucoup de Hutus vont revenir de cette population Hutu, vont revenir vers le Rwanda. 800 000 personnes vont être rapatriées vers le Rwanda, mais un noyau dur de l'ordre de 200, 300, 400 000 personnes va s'enfoncer de plus en plus à l'intérieur du Congo et va être poursuivi par les forces rwandaises et la rébellion congolaise qui se met
voilà,
en place.
Oui, voilà, j'avais parlé, il y avait la rébellion congolaise qui s'est assimilé, plus ou moins.
Qui s'est mis un peu dans le fil de ces événements, parce qu'à l'époque, le Congo s'appelle le Zaïre, et le Zaïre est présidé par le maréchal Mobutu, qui est en fin de course, qui est un homme malade.
Qui est ami avec notre président,
qui est ami avec le président Mitterrand, qui l'a réhabilité, et qui ensuite va être protégé par le nouveau pouvoir français, Jacques Chirac, qui va jouer de Mobutu pour essayer de replacer la France dans cet échiquier. Et Mobutu, lui, va soutenir les extrémistes qui ont mené le génocide. Et nous allons soutenir Mobutu, donc nous allons fournir un soutien indirect, mais très appuyé, aux génocidaires et à Mobutu. Et tout l'enjeu, et tout ce qui va permettre la construction de cette théorie du deuxième génocide va être le sort de ces 200 000, 300 000 personnes qui s'enfoncent à l'intérieur du Congo dans une forêt tropicale immense, talonnée par les troupes du nouveau régime rwandais et les troupes rebelles congolaises.
Oui, voilà. Alors après avoir traversé le Rwanda dévasté, les églises détruites, les corps, les maisons vides, dévastées, un pays mortellement atteint, vous avez rencontré quelques personnes, avaient une communication difficile sans doute, parce qu'ils étaient tous sous le choc, complètement traumatisés. Alors, le poids de la mort.
Alors, à l'origine, moi, je me dis, mais c'est quand même incroyable, on parle d'un deuxième génocide qui se serait déroulé au Congo, mais qui a été voir ? Et donc, le projet voilà. du livre, ouais. c'est simplement ah. d'y aller et de refaire le chemin suivi par ces réfugiés talonnés par les forces du régime rwandais, par les Congolais, ouais. et de retrouver les gens. Parce que il y a 27 ans, les Congolais habitaient sur place et ce sont toujours les mêmes personnes qui habitent là. Les Congolais n'ont pas bougé, ils n'ont pas changé de vie, etc.
Et donc, ils ont pâti quand même aussi de la présence des Rwandais.
Ah oui, non, ils ont pâti. Ça a été extrêmement difficile pour les Congolais. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui habitaient sur les différents lieux de cet itinéraire habitation. De fuite, ils sont restés sur place. Et 27 ans plus tard, ils sont juste plus vieux de 27 ans, mais ils n'ont rien oublié de ce qui s'est passé. Et donc, je voulais les interroger pour qu'ils me racontent un petit peu, au-delà de théories qui se construisaient de manière assez étonnante. Et c'était de retrouver ces témoignages des Congolais qui, eux, comme vous le dites, ont pâti de tous ces événements. Et d'entrée de jeu, dans une ville frontière, je tombe sur une jeune Congolaise qui est née en 1994 et qui me dit à propos des réfugiés rwandais, ils nous ont donné le goût de tuer.
Oui, ah oui, ça.
Donner le goût de tuer.
Oui, tous parlent de cette violence qui est quasiment contagieuse.
C'est ça, c'est une violence, celle du génocide, hein, celle qui permet de tuer un homme, une femme ou un enfant comme on abattrait un petit oiseau au lance-pierre, vous voyez, en se disant c'est pas grave, enfin comme un gamin, un schnappant le ferait, en se disant c'est pas très grave, ou de manière presque mécanique, comme si on tuait pas un homme, mais une chose, comme si on tuait un cancrela, hein, c'est le nom que les extrémistes donnent aux Tutsis, c'est des cancrela, les Inyenzi, donc lorsqu'on tue un Tutsi, on écrase un cancrela, quoi. C'est pas plus important que ça. Et cette violence-là qui est consubstantielle au génocide que l'on a du mal à imaginer.
Je pense à tous les génocides.
À tous les génocides, absolument. Bien sûr. Mais on a du mal à imaginer sa force, sa puissance. Mais en tout cas, cette violence-là va contaminer le Congo. Et c'est ce que me dit cette jeune femme. Ils nous ont donné le goût de tuer, c'est-à-dire ils nous ont appris la violence, ils nous ont transmis ce virus, et ils nous ont entraînés dans un cycle de violence que nous n'arrivons toujours pas à maîtriser au jour d'aujourd'hui au Congo.
Contaminer
un pays.
Alors, donc, vous avez décidé, et décision méritoire, parce que d'aller sur le chemin pris par les Rwandais, c'est-à-dire au Congo, dans cette forêt. La description des lieux est assez fantastique, hein, vraiment. La forêt est omniprésente, elle est enveloppante, absorbante. C'est même inquiétant. Tout est humidité, tout est...
C'est presque un personnage à part entière, la forêt.
Voilà,
c'est un personnage à part entière parce qu'il faut voir la forêt congolaise.
C'est énorme.
C'est 3000, 4000 kilomètres de Goma, qui est la ville à l'est, à Kinshasa, qui est la capitale à l'ouest, il y a de 3 à 4000 kilomètres.
Et pas de communication, vraiment.
Pas de communication, et juste la forêt, cette forêt tropicale immense.
Permettez-moi de vous dire, Patrick de Saint-Exupéry, vous étiez quand même sacrément gonflé. Il fallait oser, parce qu'il y avait le virus Ebola, il y avait tout ce que vous disiez, les gens disant, mais tu veux traverser la forêt, ah, c'est pas possible, ils vous l'ont tous dit, vous avez vu, et alors vous avez utilisé tous les moyens de transport, à commencer par la moto, dans la boue, c'est pas terrible,
il a fallu se débrouiller.
Enfin, il y a des descriptions homériques, et alors, ce qui est très intéressant, c'est que on voit que vous n'avez pas organisé d'une manière stricte votre voyage. C'est plutôt une forme d'errance. Bien sûr, vous avez pris le chemin des Hutus, à savoir le chemin des volcans dans cette forêt. Mais ça vous permet de rencontrer toutes sortes de gens, de toutes sortes, au fil d'une bière, au moment de en prenant une bière ou en cherchant un hôtel, comme s'il y avait, vous aviez pratiqué une forme d'imprégnation.
Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Je voulais une certaine forme d'innocence. Oui. Si je préparais trop les choses...
Oui. Vous aviez une idée préconçue.
C'est le risque. Et je voulais me laisser surprendre. Oui. Je voulais retrouver des gens qui simplement habitaient là au moment des événements, qui avaient été témoins, qui me le racontent tel que. Et moi, je les écoutais, puis on parlait, puis on me racontait. Oui. Et je pense que c'était cette forme d'innocence est extrêmement importante. Parce que c'est celle qui vous permet, lorsque vous êtes sur le terrain, de voir les choses comme elles sont, et non pas telles que vous auriez envie éventuellement qu'elles soient. Et ça change tout. Donc ce voyage, effectivement, c'était un voyage de rencontre, un voyage à travers la forêt, de rencontre avec les gens, et plein de surprises en permanence. Et ce qui est fascinant, c'est que nous sommes dans un univers dur, hein, parce que c'est l'univers de la forêt, de la mousse. Hein, c'est un Congolais qui me donne ce mot pour parler de la forêt, mousse, la mousse. C'est un univers dur, et ce sont des gens que moi je vais rencontrer pendant tout ce voyage, des gens extrêmement attachants, extrêmement intéressants. Bon, parfois il y aura un peu des escrocs ou un peu des bandits, mais ça c'est la règle du jeu. Mais ce ne sont pas des escrocs trop méchants, ce sont des escrocs embêtants, mais pas trop méchants. Et ça c'est extrêmement apprécié.
Alors, par exemple, il y en a un qui vous dit « j'aime pas la forêt ». Ici, tu fais 200 mètres et elle t'enferme. T'es perdu. Il n'y a plus rien que le vert. Plus d'horizon, plus d'air. T'étouffes. C'est ça, la touffeur de l'air.
Ah oui, oui. Dans la forêt équatoriale, lorsqu'on est dedans, on ne voit pas le ciel. Le Congolais qui me parle de la forêt, en me disant la mousse, me dit après, juste après avoir mentionné ce mot, la mousse, pour parler de la forêt, il me dit, mais tu sais, dans la mousse, on trouve de l'or. Là, je ne comprends plus. Je lui dis, mais attends, il s'appelle Aisé. Je dis à ce Congolais, mais Aisé, de l'or dans la forêt, je ne comprends pas. Il me dit, mais si, par moment, il y a une toute petite clé derrière, et puis il y a un bout de soleil qui pointe, et là tout devient jaune comme si c'était de l'or. Voilà la forêt, voilà le Congo.
Il y a des poètes aussi, vous en rencontrez.
Ah oui, c'est une belle langue, les Congolais parlent un très beau français avec des images qui sont vraiment belles.
On n'aura pas le temps de lire des extraits que j'avais prévus, mais je m'en rends compte que j'étais trop gourmande. Des extraits qui sont passionnants, le vol par exemple au-dessus justement de la forêt, l'hélicoptère qui passe, qui monte, et vous essayez d'imaginer les 200 000 disparus du deuxième génocide, soi-disant, traversant le massif. Je n'y arrivais pas. Ils se cachaient, ils avaient peur, ils évitaient la piste, étaient-ils passés par cette vallée en enfilade, etc. En fait, vous allez à Villa Calais. Alors là, en fait, cette masse de population qui était affamée, qui était terrifiée parce qu'ils avaient peur, puisqu'on les manipulait, mais en même temps, on comprend qu'ils se disent « on a tué tellement de Tutsis que forcément ils vont se venger ». Comment s'est-elle comportée là sur place alors ?
Cette population qui fuit vers l'intérieur du Congo, bon, d'abord elle est talonnée par les troupes du nouveau régime rwandais et la rébellion congolaise. Donc forcément, ces gens-là ont peur. Forcément, ils ont peur. Mais cette peur, elle est amplifiée par les extrémistes. Ils s'en servent comme d'une arme. Cette peur leur permet de tenir leur population. Donc les extrémistes l'amplifient. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'ils vont... C'est terrible à dire, mais ils vont sacrifier une partie de leur population.
Oui.
Ils vont la faire mourir de faim, de soif, de maladie. Ils vont l'épuiser, ils vont la sacrifier. Au fur et à mesure des étapes que cette population fait dans sa fuite, on voit les concepteurs partir, être évacués, qui dans un avion, sur une piste de fortune, qui dans un hélicoptère au bord du Congo, et laisser derrière les femmes, les enfants qu'ils ont menés là, mais les laisser. Et on constate aussi que dans cette population de réfugiés, hein, dont beaucoup sont armés, ce qui est quand même une drôle de notion, des réfugiés armés. Quoi. C'est, là aussi, les Congolais me le répètent souvent, on n'avait encore jamais vu des réfugiés armés. Et on constate que dans cette foule, dans cette masse de réfugiés, les yeux parfois, peu à peu, se dessillent. Que les gens se rendent compte dans quel extrême on les a menés. Alors bien sûr, il y a des combats, il y a des massacres, il y a des morts, mais rien qui ne ressemble à un génocide. Mmh. C'est une guerre, et ça n'est pas une extermination. Mmh. Et ça, c'est probant. Et moi, dans les mots que je retrouve, qui m'ont frappé, hein, dans des témoignages de réfugiés, parce qu'un certain nombre de réfugiés ont écrit des témoignages lorsqu'ils sont sortis de cet enfer, moi, il y a des mots qui m'ont touché. Hein. Il y a un réfugié qui s'appelle Philippe Païmana, qui écrit que le bas-fond de toutes les digressions morales est atteint à Tingi Tingi. Et il continue, la soi-disante communauté ethnique des frères de sang et de destin, du même nom et du même nez, donc les Hutus, hein, c'est là où on est vraiment dans la définition, n'avait réellement rien en commun à part le mal. Et moi, par moments, en refaisant ce voyage, en me replongeant dans tous les écrits, etc., j'ai littéralement eu l'impression d'approcher le mal. Vraiment, par moments, c'était presque physique. On approche le mal. Ça peut paraître grandiloquent, c'est très pratique. Hein, et lorsqu'on lit ces mots, n'avaient réellement rien en commun à part le mal, on comprend qu'on est face à une histoire qui est sidérante.
Et tous les Congolais que vous avez interrogés vous ont dit ce mal, justement.
Ah oui, bah parce que les Congolais sont les premiers à en avoir souffert. Oui. Ce sont des gens accueillants. Donc au début, bah les réfugiés les ont accueillis. Et puis les réfugiés avaient des armes, les réfugiés les ont pillés. Les réfugiés ont pillé leurs plantations, ont tué les Congolais. Et puis ensuite, le nouveau régime rwandais arrivait. Et puis ils essayaient de remettre les choses en place. Mais il y avait à nouveau des tueries. Voilà, c'était une espèce de maelstrom de violence qui s'est déchaîné à l'arrivée de cette population. Et on en revient aux mots de cette jeune femme née en 1994, ils nous ont donné le goût de tuer, parce qu'ils enclenchaient un engrenage auquel les populations ne pouvaient pas résister.
Ils ont complètement déstabilisé cette région-là.
Totalement.
Alors, vous faites de rencontres multiples et vos questions, toujours les mêmes. Alors, est-ce qu'il y a eu un génocide? Vous avez assisté à un génocide Hutu? Les réponses, la plupart crédibles, d'autres moins. Bon, celle d'Oreb, par exemple, on se pose la question. Hein, je ne sais pas si vous... Mais il y a le pasteur Louis Bonanga qui vous parle.
Oui, non, je rencontre beaucoup de curés, de prêtres, parce que ce sont quand même des gens qui sont extrêmement présents dans toute la région. Et tout le monde va me raconter des morts, des massacres. Oui. Tous les témoins vont me raconter des morts, des massacres. Parfois, les gens vont confondre en disant « mais il y a eu beaucoup de massacres, donc s'il y a eu beaucoup de massacres, ça veut dire que c'est un génocide. » Et j'expliquerai aux gens mais qu'une série de massacres, ça ne fait pas un génocide. Qu'un génocide, c'est bien plus fort et bien plus important qu'une série de massacres. Et lorsque je leur pose ça, lorsque je leur explique ça, ils me disent « ah oui, d'accord, on ne savait pas, on a cru que... » Mais ça... C'est parce qu'il y a aussi en Europe beaucoup de gens qui ont tenu cette théorie d'un deuxième génocide. Et donc, au Congo, les gens écoutent la radio et la radio les influence beaucoup. Si,
mais personnes... quand il parlait de massacre, Patrick de Saint-Exupéry, il parlait de massacre de Congolais aussi.
Oui, de Congolais tués. Et de réfugiés aussi
et de
tués.
Réfugiés,
un massacre de... C'est terrible ce que je veux dire, mais un massacre de 100 personnes, plus un massacre de 50 personnes, plus un massacre de 200 personnes, ça ne fait pas un génocide. Ouais. Ça fait des massacres, et les massacres, c'est déjà tellement terrible. Pourquoi rajouter des mots encore plus forts, alors que la simple description des faits est déjà en soi terrible?
Oui. Absolument. Alors, parmi ceux que vous avez rencontrés, il y a le pasteur Louis Bonanga, il y a le professeur Maleka qui est l'auteur d'une monographie « Histoire d'hier et d'aujourd'hui » qui vous apprend beaucoup de choses.
Ah oui, Maleka, je le rencontre dans la ville de Mbandaka, où il a fait une monographie sur cette ville, et il va me servir un peu très gentiment de guide dans Mbandaka. Il va me faire visiter un certain nombre de lieux, d'abord un lieu magnifique, les jardins tropicaux créés par la Belgique pendant la colonisation. Il va me montrer aussi des lieux où il y a eu des massacres, à côté d'une station électrique où il y a eu une centaine de morts, sur les quais où il y a eu 200 morts. Il va me faire visiter aussi le collège où Mobutu, le maréchal Mobutu, était étudiant. Le principal garde un très mauvais souvenir de cet étudiant-là qui deviendra le chef de son pays. On se promène dans cette histoire congolaise qui est absolument fascinante. Et Maleka, à un moment, ce professeur va un peu me scotcher parce qu'il me raconte que De Gaulle n'est pas passé loin de Mbandaka et que le gouverneur Félix Oboué est venu le rencontrer. Et il me dit, mais lui, il est au Panthéon. Et je ne comprends pas très bien. Je lui dis, mais qui est au Panthéon? Et en fait, c'est le gouverneur Félix Oboué qui est au Panthéon. Voilà, je ne le savais pas, mais j'ai réalisé que c'était le seul Africain. C'était le seul Africain qui est présent au Panthéon.
Mais ça l'a marqué. Alors voilà, tout au cours de votre ouvrage, vous partagez vos impressions, vos réflexions, vos propres lectures, Nous progressons avec vous, qui savez décrire cette atmosphère, je dirais, crépusculaire de cette partie du pays. Alors, le Congo, que la végétation enveloppe, donc on en a parlé. Un pays qui, que vous avez traversé non sans mal, avec toutes sortes d'aléas. Et avec vous, on écoute par exemple un podcast, Jean-Noël Jeannenet, dans, l'émission Concordance des temps sur l'anthropophagie, à travers les âges. Ça m'a fait rire parce qu'il parle de ça, c'est pas si vieux. Et on pense à tous ces crimes contre l'humanité si proches de nous. Il y a la Shoah, l'Arménie, le Kosovo, les chrétiens d'Orient, les Ouïghours maintenant, et encore. Et à la fin, vous terminez et vous posez la question, où est la civilisation ?
Oui, moi c'est vraiment quelque chose qui m'a interrogé. D'abord, cette coïncidence d'écouter ce podcast de Jeannenet dans un train totalement brinque-ballant qui m'amène de la ville, on est vraiment au milieu de nulle part. C'est un train presque qui date de la colonisation. On avance à 8 à l'heure. Pour faire 100 km, il faut plus de 24 heures. Enfin voilà, on est perdu au milieu de nulle part. J'ai ce podcast à la radio et j'entends Jeannenet qui sur cette émission sur l'anthropophagie, le cannibalisme, et qui raconte quelque chose que j'ignorais complètement, c'est que Richard Cœur de Lion était cannibale, anthropophage. Parce qu'à l'époque, explique Jeannenet, les musulmans étaient considérés comme infidèles, donc ils n'étaient pas des hommes, donc on avait le droit de les manger. Et moi, je tombe des nues, littéralement, je ne connaissais pas ce détail de l'histoire. Et je suis dans un lieu qui prête à tous les fantasmes, le cœur des ténèbres, de Conrad, les tribus, le cannibalisme, etc. Et je m'interroge, mais où est la civilisation ? Nous qui sommes si sûrs de nous, nous qui en permanence avons tendance, parfois gentiment, parfois avec beaucoup d'arrogance, à donner des conseils, qui sommes-nous vraiment pour nous permettre un certain nombre de choses ?
Exactement.
Et je me poserai une deuxième fois la question dans ce voyage où un jeune professeur, un professeur de 45 ans, 50 ans, que je croise là aussi au milieu de nulle part, un t-shirt un peu limé, un short assez vieux, et qui sort de sous son t-shirt un livre un peu jauni, et c'est le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Il commence à me le lire et je sens l'émotion lorsqu'il me lit les premières pages. Et là aussi, vous êtes impressionné, bluffé, stupéfait de croiser au milieu de nulle part quelqu'un qui vous lit des textes comme ça en les appréciant autant.
Comme quoi, on peut, dans des endroits qui paraissent improbables, on peut rencontrer des gens extraordinaires.
Ah oui, oui.
Et savoir, pour terminer, puisque ça y est, on me dit qu'il faut nous arrêter, savoir aussi que le Rwanda s'est reconstruit, qu'une paix s'est amorcée et qu'il revit.
Ah oui, là aujourd'hui au Rwanda, les identités ethniques, celles qui ont fait tellement de dégâts et tellement de mal, sont peu à peu en train d'être effacées au profit d'une identité rwandaise qui s'impose de plus en plus. Et le pays a fait des progrès immenses dans la reconstruction. C'est un pays très très beau et vraiment, allez-y.
Une bonne nouvelle. Un grand merci, Patrick de Saint-Exupéry. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La Traversée, paru aux éditions Les Arènes, dans la collection Reporter. Merci.
Merci à vous.